Bonjour à tous. Le comité de lecture de la médiathèque et des correspondances est heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, nous recevons Chloé Cormand pour son livre Midi et Guy Bollet pour son livre Quand Dieu boxait en amateur.
Nous allons faire donc des lectures avec Michel, Carole, Marie-Pierre, Catherine et Sylvie. Donc ce sont des livres qu'ils ont beaucoup aimés, nos lecteurs, et qu'ils ont travaillé avec Raphaël France Kuhlmann, notre comédien.
Alors en fait c'est Chloé Cormann et non pas Chloé Cormand, voilà. Et donc à la suite de ces lectures, nous aurons un moment d'échange avec les auteurs sur scène, les auteurs ici présents. Et puis, nous vous offrons la médiathèque vous offrira un apéritif qui sera concocté aujourd'hui par Zineb de Comme à la maison, qui se trouve rue Guillaume-Pierre. Et évidemment, nous avons le libraire qui est là, le libraire du Poivre d'Âne, qui accueillera nos deux auteurs pour un petit moment de dédicace autour d'un verre. Alors, place à la lecture. Donc, dans ce roman de Chloé Cormann, la narratrice est médecin dans un hôpital parisien. Un jour, arrive dans son service un homme qu'elle a connu 15 ans auparavant, alors qu'elle était animatrice dans un théâtre amateur à Marseille pour encadrer des enfants.
Je ne me souviens pas de tous les noms, ni de tous les visages. Il faudra que je demande à Manu si elle peut retrouver la liste. Mais je me suis souvenue de notre arrivée à la mairie de secteur du 2e arrondissement de Marseille, elle et moi, le 6 juillet 2000. Je nous revois attendant dans le couloir du service de la jeunesse, des sports et des loisirs, avec dans des pochettes plastiques nos CV, brevets d'animatrice et papiers d'identité pour le rendez-vous avec la chargée de mission qui nous avait recrutés. Elle apparaît dans l'encadrement de sa porte, auréolée de prospectus pour les randos, la médiathèque, le soutien scolaire, des cours de poterie, de yoga, les samedis ciné-voyage et de dessin d'enfants. En jean et blouse ajourée, roulant une cigarette devant ses seins, elle nous dit d'entrer, mais qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Il y aura 20 enfants dans le groupe, 10 garçons et 10 filles. Viens pépite, viens petite. La pièce est emplie d'une douce musique qui provient de la rue, et s'élève par la portière ouverte d'une voiture stationnée là en bas, qui attire très souvent la chargée de mission jusqu'à la fenêtre. Revenant à nous, elle prend nos cartes d'identité et elle nous nomme en nous dévisageant toutes les deux. Emmanuel Aubert et Claire Novalès. Puis elle nous transmet nerveusement la liste des noms manuscrits que je voudrais relire aujourd'hui. Les 20 écritures de parents ou d'animateurs qui les avaient inscrits pour les vacances, avec les 20 dates de naissance. La musique résonne de plus en plus fort dans la rue encaissée et au cours du dialogue qui va suivre, en voici les paroles retracées par ma mémoire, aussi fidèlement que possible, malgré le micro qui vibre et qui crache quelque chose comme « Alors, chienne, tu connais ta peine ? Allez, chienne, tu veux que je t'éveille ? Si tu veux que je t'aime, pourquoi tu te fais la belle ? C'est quoi ton kiff ? C'est quoi ton trip ? Ce que tu veux, je te le donne, alors viens et te donne. » La chargée de mission retourne à la fenêtre, se penche et demande « Hé, Tonio, tu peux baisser le son, s'il te plaît ? Je vais te faire rêver, moi, si tu continues. » Mais le son augmente, la chanson se poursuit. « Je veux te connaître, ma chérie, toi et moi, faut qu'on crie. Ton cul fait vibrer, ton style me fait darder. Alors viens goûter, bébé, viens tenter, poupée, viens. » Manu regarde qu'il y aura plusieurs anniversaires d'enfants pendant la période et qu'on pourra les fêter. On entend un coup de klaxon. « Viens, pépite, que je t'habite. Viens, petite, que je t'excite. » La chargée de mission pointe dans la liste un cas d'asthme et un cas de diabète à voir avec l'infirmière. Il faut juste veiller à leur traitement à heure fixe et prévenir en cas de problème. Je lui rappelle que je suis justement étudiante en médecine, mais ça ne l'émeut pas. Manu demande. Mais pour l'encadrement, on ne devait pas être trois ? J'ajoute. Quand est-ce qu'on retrouve Dominique Muller ? La chargée de mission remue le bazar sur son bureau. des post-it verts et roses en forme d'étoiles, sa pochette d'Amsterdamer au caramel, des mentos, un pot de fond de teint bourgeois, des préservatifs Manix, des feutres multicolores garantissant des sèchements échappés de leur pochette, un rimmel qui fuit, des boîtes de vitamines, et nous tendant un trousseau de clés. Oui, Dom va vous rejoindre. Il est à la bourse cette saison. Il n'est pas encore rentré de son chantier. C'est pas grave, c'est juste que vous ne pouvez pas faire de sortie avant qu'il arrive. Vous avez qu'à rester au théâtre, faire des animations. Puis elle nous indique l'adresse du théâtre d'été, le petit théâtre associatif où nous allons travailler ces quelques semaines et qu'elle a entouré au stabilo bleu sur un plan de Marseille, photocopié là. Je revois le profil de la baie, les îles du Frioul, les noms des rues qui s'escarpent. Je rêve de ces théâtres où viendront bientôt les enfants.
À une terrasse, non loin de là, nous avons pris place sur les fauteuils en plastique, dans un rond de soleil adouci par les feuilles des platanes. Nous avons commandé des Monaco et commencé à lire les prospectus que la chargée de mission au service de la jeunesse, des sports et des loisirs nous avait donné à la mairie, en plus du plan de la ville et de la liste des enfants. L'un des dépliants s'intitulait « Stage au théâtre d'été pour les moyens grands, 10-12 ans, La Tempête de Shakespeare ». En couverture était résumé l'intérêt pédagogique de cette activité. Initiation au théâtre, expression corporelle et expression orale, créativité, collectif. C'était vrai, mais ce n'était pas tout. Je pense surtout que des parents qui ne partaient pas en vacances étaient contents de caser leurs enfants pendant la journée. Ils ne s'intéressaient pas forcément à ce qui était décrit dans le programme. De quoi parle la pièce de Shakespeare ? Une île où l'on attend, un bateau qui fait naufrage et de survivants qui n'ont pas le choix ? Faire la fête, tomber amoureux, réinventer le monde. Nous restons, dans le soleil tamisé par les feuillages, à lire la suite du prospectus. J'ai mis du temps à le retrouver dans mes affaires, mais ça y est, j'ai pu remettre la main dessus. Il faudra que je demande à Manu si elle a un moyen de le récupérer. J'espère qu'elle l'a gardé avec le reste. Je l'ai ouvert, j'ai vu le paysage de calanques vert et bleu qui se déployait sur ses trois volets, le petit portrait de Shakespeare à la boucle d'oreille et la reproduction d'une gravure du XVIe siècle montrant une île avec une plage presque déserte brûlait un feu devant lequel était accroupi un petit Indien de 10 ans à peine, ce qui n'avait pas de pertinence géographique, l'île de la pièce se situant en Méditerranée, tenant sa tête sur son poing fermé, tisonnant de l'entremain, où allait-il chercher tout ça ? Suivez le petit texte écrit par Dominique, signé DM. Comme il en faisait pour chacun de ses spectacles, au début de chaque atelier, moitié lyrique, moitié pédagogique, assez personnel. Nous avons lu tout en buvant nos bières. Il disait « Qu'est-ce que la tempête ? Elle se lève et enfle les voiles. Elle balaye toutes nos possessions, toutes nos idées reçues. Bientôt, le pont du bateau est désert. Bientôt, nous sommes dans des canots de sauvetage ou dans les vagues. Nous nageons. La tempête hurle à nos oreilles. Nous n'entendons plus nos propres pensées et regardons dériver les tonneaux, les cabestans, les cochons qui dormaient dans les cales et que nous ne mangeons plus. La tempête siffle à nos oreilles et nous nageons, nageons, emportés par des vagues, hautes comme des baleines, comme des gratte-ciel. Les survivants se réveillent, dispersés aux quatre coins du Nil. Il y a ceux qui sont envoûtés par des musiques qu'ils n'ont jamais entendues nulle part. Ceux qui tombent amoureux d'une nymphe, ceux qui boivent. Mais tous vont être victimes des enchantements de l'île et d'un mystérieux sommeil qui s'empare d'eux. Et un jour, tous devront oublier ce qu'ils ont vu, une seule fois dans leur vie. Oublier cette musique unique au monde, enterrer la magie, pour reprendre le cours d'une vie normale. Après s'être cru morts, les uns les autres, ils vont se retrouver enfin, qu'ils s'aiment ou non, qu'ils le veuillent ou non, et rejoindre le quai d'où ils sont partis, les intrigues, la grande ville, la banalité. Qui sait, quand ils seront très vieux, qui sait, peut-être un jour se souviendront-ils de la tempête.
On boit notre café avec Dom, en relisant les notes qu'il a préparées. Dom m'embrasse dans le cou. Il faut respecter les enfants et les parents. On ne fait pas ce qu'on veut avec les gosses. Il allume sa cigarette à la mienne. Ils ne sont pas à nous. Je lui tourne le dos pour rejoindre les autres parents et les autres enfants qui arrivent.
Ce lundi matin, Joséphine est la dernière arrivée. Cette semaine, c'est mon papa qui vient me chercher. Elle a l'air tout à fait contente, pour ne pas dire émerveillée. Je m'en étonne au moment où elle se tourne vers l'homme austère, timide, mal habillé qui se tient derrière elle, qui se présente. Ahmed, et me tend soudainement la main. Sa tête culmine loin au-dessus des nôtres. On fait la garde alternée avec Adeline. Jo se serre contre sa cuisse et demande qu'il se penche pour l'embrasser. Il a l'air gêné, comme s'il ne la connaissait pas. C'est la première semaine où on fait ça. Adeline a eu l'arrivée du petit frère de Jo il y a 4 ans. Et maintenant, comme il grandit et comme elle, il lui faut du temps pour s'en occuper, c'est pour ça. Moi, j'habite loin, du côté de Cassis. Ça a l'air de l'embêter énormément, ce trajet. Bon, j'y vais. Mais il reste, en regardant sa fille agrippée à sa jambe. J'ai envie de lui demander si la garde alternée a été signalée lors de l'inscription au stage de théâtre, si c'est bien en règle tout ça, car nous, on ne nous a rien dit. Mais la petite a l'air si heureuse et confiante que je ravale cette question trop procédurière. Elle n'a pas de sac ? Ah non, je ne savais pas. Bon, à 6 heures alors, c'est ça ? Et il tourne les talons tandis que la petite s'en va vers les vestiaires, ravie par ce dernier baiser de géant.
Les vestiaires, au fond desquels se trouve une cabine de douche et les toilettes, sont 2 petites salles à carreaux couleur sable où les voix aiguës des enfants sont horribles à entendre. Leur chuchotement crépite ici comme un feu dans des aiguilles de pin. Leurs cris sont acérés par la réverbération et se propagent dans un air qui pue le vieux sandwich au beurre et la chaussette sale. C'est pourquoi, le plus possible, nous n'y allons pas. J'accompagne Joséphine jusqu'au seuil, d'où j'aperçois Félix qui s'est assise au bout d'un banc et se passe les lèvres au gloss rose vif, sachant qu'elle joue une scène importante tout à l'heure. Je dis à Joséphine qu'on lui procurera un goûter, puisqu'elle a oublié son sac. Puis, je la laisse.
Jo met du temps à se préparer. Elle s'attarde seule aux toilettes, tandis que les autres enfants commencent à se rassembler sur le devant de la scène. Puis elle arrive, en trottinant de l'air affairé qu'ont les éternels retardataires. Elles font la ronde pour mettre ses mains dans celles de Romane et de Bastien. « Asseyez-vous, mettez-vous en cercle et asseyez-vous, on va commencer !»
Au centre, ils étaient 3. Farid, qui revenait en titubant, Mario, qui hurlait les ordres, et Joséphine. C'était elle qui frappait. Elle serrait les poings et écartait les jambes comme pour rester stable dans son délire. De temps en temps, elle claquait aussi sa main contre celle de Mario ou d'un enfant dans le public, Romane ou Félix, vêtue de son costume de Junon, qui étaient toutes les deux au premier rang. Elle transpirait et elle frappait son pied contre les planches comme pour se donner un rythme. C'est ça qui produisait les chocs qu'on avait entendus. Quelqu'un cria « Vas-y, Jo !» et de son poing serré, elle frappa à nouveau l'épaule de Farid. On ne distinguait même plus les voix des filles de celles des garçons, fondues dans un même éclat de rire. « Elle y va, hein ? Regarde, regarde, elle y va ! Vas-y, Jo !» Et « Elle est bête, quelle est bête, regarde !» Dans le décor, des chaises avaient été renversées et du jus d'orange que quelqu'un avait apporté pour le petit déjeuner s'était répandu sur la scène, entraînée poisseuse qui faisait glisser les combattants. Dans son rôle de meneur, Mario veillait au prolongement du spectacle. Il dit à Jo de se calmer, à Farid de répliquer et Farid la gifla. Puis ils roulèrent ensemble par terre, toujours encouragés par tous, l'un ou l'autre des spectateurs essayant de placer un coup de pied sur les combattants s'ils passaient devant lui. Je vis Marcel Huang au premier rang, qui s'avançait sur les combattants à pas contenus, avec la prudence que l'on a quand on s'approche d'un feu, pour donner à son tour un coup de pied dans la mêlée, juste avant que Jo ne reprenne le dessus et qu'elle n'arrache à Farid un cri strident en l'attrapant par les cheveux. Elle lui a tiré la tête en arrière, comme ça, et il a encore hurlé, puis Jo l'a lâché. Et ce qui devait être un soulagement ne l'a pas été, même une seconde, parce que dans le même élan, la tête qui repartait en avant, elle lui a abattu le front contre les planches. Et tout s'arrêta. Je me suis levée, j'ai demandé « Elle est où, Jo ?» Et à nouveau, le cercle s'est ouvert. Jo s'était assise à l'écart, dans le décor, sur le tronc couché qui servait de banc devant la hutte de Prospero. Elle était horrible à voir. Ses bras étaient couverts de griffures. Son casque était resté accroché par la sangle autour de son cou et son visage était écarlate. Un de ses yeux, enflé, ne s'ouvrait plus. Et sa lèvre inférieure saignait sans discontinuer sur son menton. Elle ne s'essuyait pas. Elle avait posé ses mains sur ses genoux et elle ne bougeait pas.
Je vais voir Dom ce matin. Je suis à vélo. Il est à peine 7 heures et je résiste dans ma laine polaire, sous mon bonnet, aux assauts du froid, qui me laisse comme un drôle de mammifère velu, à la dérive, tout le temps de mon trajet sur les quais de Seine. Mes pensées vagabondent. Je voudrais trouver une place pour un patient qu'on ne peut plus garder dans le service, mais qui a besoin de rester en milieu hospitalier. Je voudrais appeler ma mère, prévoir des vacances, soigner une carie. Je voudrais prévoir une réunion pour qu'on change le protocole de prise en charge des hépatites bénignes. Et il faut que j'essaie de joindre Manu. Pourquoi ? Je me dis que c'est pour prendre des nouvelles avant Noël, mais je sais que c'est faux. Ce n'est qu'un prétexte. Quelqu'un d'autre a dit ça, d'une voix fluette et mal assurée. Un feu rouge, et mes yeux se posent sur mon panier, qui est normalement vide en début de journée, quand je n'y ai pas mis les courses, les poireaux, les dossiers. Seulement, il y a là une petite fille qui est assise, qui me tourne le dos. « Quand est-ce que tu vas l'appeler ?» ajoute-t-elle à peine audible avec cette tempête qui souffle en bord de Seine. Son dos est voûté par cette position grotesque, fesses enfoncées dans le panier, jambes pendantes au-dessus de la roue avant. Elle est affreusement mal habillée, bras nus malgré le vent d'hiver tranchant, et quand elle se tourne, je vois les larmes gelées en haut de ses joues. Je donne un coup de nerveux sur la pédale de droite, je démarre. « S'il te plaît, dégage !» lui dis-je. Et encore plus énervée par mon attitude que par le reste, et par la disparition soudaine de la gamine du sommet de mon guidon de vélo, comme j'ai pu le dire à une époque passée, je répète cette phrase que je suis pourtant seule à entendre. « Laisse-moi tranquille, ma pauvre. Franchement, disparais. »
Je suis arrivée dans la chambre le plus silencieusement du monde. J'ai posé un dossier de patient et des échographies sur la commode qui est en face du lit, meuble en plastique blanc à boutons ronds, couleur marine. C'est le luxe qu'on accorde aux patients qui sont là pour longtemps, aux vrais naufragés. Je m'avance près de celui-ci. Le voilage blanc diffuse sa lumière tendue au cordeau, nette et crue, excellente pour se pendre. Je m'assois sur la chaise près de lui et attends avec impatience l'événement du réveil, la vie des yeux. Enfin, j'espère. Je lui prends la main, il la serre depuis un monde que je ne connais pas et je m'endors moi aussi. Pour combien de temps ? Tu vas travailler ? Il s'est réveillé, il me parle. Il s'est redressé dans le lit et adossé au coussin. Tu as lu ça ? Sa voix est basse, magnifique, et ses yeux rient. Lu quoi ? Il porte le t-shirt d'un groupe de rock polonais ou roumain, des gros mecs à tête de mort sur des bécanes, je connais pas. Mes yeux se posent à l'endroit qu'il me désigne sur la table basse. Je saisis le recueil de nouvelles qui est là. 120 contes fantastiques de Nouvelle-Calédonie. Comment tu supportes les antibiotiques ? On bavarde un peu, mais il se fatigue vite.
Le soir, je reprends mon vélo. Une fillette, mal attifée et légère comme une plume, est assise dans le panier devant mon guidon. « Tu crois que Manu va accepter de venir la voir si tu l'appelles ?» Elle se retourne. Elle a une dent cassée devant. Voyant mon regard qui insiste, « C'est rien, je suis tombée. » « Et qu'est-ce que tu as à l'œil ?»« Rien. » L'ombre bleue d'un cocard qui vire au vert et au jaune. « T'as quoi à l'œil ?» Tu vas appeler Manu ce soir ? Tais-toi. Voilà, il manquait plus qu'elle se mette à pleurer. Je n'ose pas prévenir Manu pour l'instant. En fait, je ne sais même pas comment la joindre. Et je ne sais pas quoi répondre à la petite. Je me moque d'elle méchamment. T'es tombée du vélo ? Tu devrais mettre un casque. Elle m'a toujours énervée, cette gamine. Et j'ai répondu ça pour faire diversion, pour qu'elle me lâche. Et effectivement, elle n'est déjà plus là. Et c'est moi qui pleure, me gelant les mains sur mon guidon, essuyant mon nez morveux dans ma manche, à chaque feu rouge.
La pluie cingle les vitres, et du même coup, à travers elle, le beau visage de Manu, qui est assise là et qui m'attend. Un journal et son smartphone sont posés devant elle, mais elle ne les regarde pas. Elle n'a enlevé ni son manteau, ni son écharpe. Elle est absorbée dans l'arpentage d'un univers tout intérieur, et elle ne me voit pas arriver. Je franchis les quelques mètres qu'il reste entre l'auvent dégoulinant de l'entrée et le silence. Le calme qui semble serrer autour d'elle, et j'espère que les odeurs de chlore et de médicaments, les bruits et les voix de l'hôpital qui m'ont suivi toute la journée, m'auront bientôt quittée. Seront tout à fait évaporées d'ici à ce que je la rejoigne et que je m'asseye. Pour ne pas que je me retrouve sans le vouloir à encombrer notre conversation avec des mots parasites sur le quotidien du travail ou sur le fiasco rituel des fêtes de fin d'année, leur célébration qu'on prétend chaque fois gênée par l'accumulation du travail, alors que ce sont les fêtes elles-mêmes qui m'empêchent à la fois de travailler tranquille et de vivre dans le plaisir au jour le jour, qui installent l'idée qu'il y aura des jours précis pour faire la fête et vident de leur énergie tous les jours qui voisinent. Manu me le confirme. C'est bien Noël qui l'a amenée à Paris. Elle est arrivée à Toulouse il y a 3 jours pour voir ses parents. Elle est venue avec son mari et ses 2 fils. Mais ce n'est pas de cela qu'elle est venue me parler, elle non plus. Et dès les premières minutes, alors que je suis encore très nerveuse et que j'entre dans la conversation comme avec une vue brouillée, elle se lance à propos de Dom, mais pas tout à fait. Elle le répète juste pour mieux le contourner et l'abandonner. Je ne veux plus aller le voir. Je ne vais pas remettre les pieds là-bas. Manu a toujours parlé très vite, sans articuler. Une voix dont on ne sait plus par moments si c'est un souffle ou si ce sont des mots. Elle bourdonne. Et il faut voir ses lèvres bouger pour se convaincre que non. Ce n'est pas un freestyle de clarinette ou de percussion dans un morceau de jazz qui part tout seul en tête devant l'orchestre en te laissant juste assez d'énergie pour battre le tempo et que si, elle te parle. Ce qui ne laisse aucun doute, c'est aussi qu'elle te regarde droit dans les yeux. « C'est la dernière fois que j'y vais, tu peux lui dire. » Et tandis que je suis accrochée à son visage, il y a la colère qui anime son regard. Elle poursuit avec d'autres mots qui m'atteignent sans que je me représente tout de suite ce qu'ils disent, qui ne signifient rien encore. Mais soulève la vase du passé, Marseille ou les enfants et ce qui s'est passé le jour du spectacle.
Nous allons passer à la lecture suivante. Guy Bollé, quand Dieu boxait en amateur. Après la mort de son père, le narrateur se souvient de cet homme, à la fois forgeron et champion de boxe, qui chantait des opérettes et qui interprétait Jésus à chaque fête pascale au théâtre paroissial. Mais c'est aussi une histoire d'amitié entre 2 enfants, l'un devenu forgeron, l'autre curé.
Et sur scène, nous avons Nicole, Dominique, Françoise, Alphonsine et Marie-France.
De fêter ses 26 ans et rien n'a vraiment changé. La semaine, du matin au soir, le marteau sur l'enclume, le fer rougi, les escarbilles, l'acier que l'on tord. Les week-ends, il combat, les 2 pieds sur le ring, les coups portés, les coups reçus, les adversaires qu'on cherche à faire rougir et plier comme l'acier. De l'effort et de la sueur, taper et marteler, des vibrations, des douleurs dans les bras, le goût de la conquête et du travail bien fait. Quand on se façonne un destin sur l'enclume ou sur le ring, forgeron ou boxeur, qu'importent les matériaux, ferraille ou chair humaine, c'est du pareil au même.
1952, mois de décembre, dimanche 28, finale du championnat de France de boxe amateur, catégorie poids moyen. Le calendrier nous apprend que l'on fête en ce jour le massacre des Saints Innocents. Ces pauvres gosses, tout juste nés, qu'Hérode fit massacrer dans l'espoir que l'un d'entre eux fût Jésus. Mon père, tout en chauffant ses muscles dans un vestiaire terne et froid, les yeux malgré lui rivés sur le calendrier à hauteur de visage, est en train de s'énerver et de pester contre l'humanité. Le massacre des Saints Innocents. Quelle connerie, quelle lâcheté. Pourquoi s'en prendre à des enfants? C'est comme si l'on se mettait à massacrer les fleurs. Déjà gamin, au catéchisme, ça l'avait répugné, cette histoire de la Bible.
Il avait interrogé son pote Pierrot, qui depuis quelque temps, ce ballot, suit des études pour devenir prêtre. Mais il ne se souvient plus de la réponse qui lui avait bafouillé quelque chose du genre « Les voies du Seigneur sont impénétrables », donc aussi vermoulues que celles de la grammaire.
Mon père attend son premier gosse pour les jours qui viennent. Il naîtra dans 3 jours. Ce gosse sera moi. Nous l'ignorons tous deux. Il pense aux innocents qu'Hérode a massacrés. Il songe à moi. Il m'espère. Il m'attend. Il m'imagine peut-être. Il combat ce soir pour le ventre gonflé d'où va sortir le fruit. Il pense à son épouse, au bébé qui va naître, un innocent. Il pense à ceux que le destin massacre. Il pense que la boxe est beaucoup moins cruelle que les cruelles histoires de l'Ancien Testament. Il pense que la boxe n'est pas une métaphore de la vie, mais son Eucharistie. Prenez et frappez, car ceci est mon corps. Puis il cesse de penser, fait le vide en lui, boxe contre son ombre, respire à plein poumon, souffle, contracte ses mâchoires, frappe de ses 2 gants l'angle de ses maxillaires.
Il combat dans la catégorie des poids moyens. Au mieux de sa forme, 72,574 kilos. Juste à la limite. Son premier championnat de France. 12 ans d'efforts, d'entraînement, de matchs préparatoires. Le grand soir. Ne surtout pas céder à la nervosité, ni être trop sûr de soi. Rester concentré, se concentrer, tenter de répéter les gestes que l'on a mille et mille fois travaillés à la salle. Faire partir les coups depuis la pointe du pied, bien balancer les hanches, le buste, lancer les poings dans l'alignement des épaules, coordonner attaque, retrait, esquive, défense. Ne pas se poser de questions. Appliquer tout ce que l'on sait sans chercher le chaos. Il viendra naturellement si jamais il doit venir. Ne pas jouer au professionnel. Marquer des points, des points, des points. Toucher, toucher et encore toucher.
Ce combat, on me l'a raconté plus de 100 fois. J'ai été élevée avec lui, j'ai grandi avec lui. J'en ai été nourrie du berceau à l'âge d'homme. Les versions variaient selon qui racontait, mais toujours elles étaient héroïques. Ce n'était plus un combat, mais une odyssée, une épopée. Les 12 travaux d'Hercule à lui tout seul. Waterloo et Bouvines condensés sur un ring. Il me paraît pourtant impossible à décrire ce match fondateur qui fit de mon enfance un palais des merveilles et de lui un dieu vivant. Il faudrait, pour pouvoir le dépeindre dans la règle de l'art, parvenir à triturer les phrases comme il sut, lui, malaxer le visage de son adversaire, un solide gars du Nord aux épaules de docker qu'il attendait de gants fermes. Pourtant, le matériau est là.
Les swings.
Les crochets.
Les directs.
Les esquives.
Le bruit mat des coups.
La douleur sur la peau.
Les os qui se froissent.
Les muscles qui durcissent.
Les uppercuts percutant les mâchoires.
Comprimant la mandibule.
Les protège-dents qui claquent.
Les nuques qui se raidissent.
Les abdos qui se contractent.
Les crochets au foie coupant net la respiration et provoquant parfois un début d'asphyxie qui contraint à poser un genou à terre.
9 secondes pour se remettre.
C'est pas beaucoup, mais une de plus, c'est une de trop.
Et les pommettes qui gonflent.
La plante des pieds qui chauffe.
Un œil qui voit moins bien.
Et de nouveau le souffle. Crochet à l'estomac.
Les côtes qui hoquettent.
Du mal à respirer.
Une envie de vomir.
Respirer.
Respirer.
Vite. La minute de repos.
Le soigneur.
Les sels et l'ammoniac qu'on vous plante sous le nez.
Respirer un grand coup.
Putain, ça brûle.
Se lever.
Se relever.
Le crâne comme une enclume sous le marteau des poings.
Ne pas s'affoler.
Laissez passer l'orage.
Sa technique est claire.
À l'adversaire du Nord.
Il veut le chaos.
Ne cherche pas à boxer.
Erreur de débutant. Pourtant, c'est pas un branque.
Il en a.
Des rondes au compteur.
C'est peut-être un piège.
Pas grave. Ne pas tomber dedans.
Le laisser venir.
Le laisser s'épuiser.
Déjà, ses coups font moins mal et sa technique défaille.
D'autant qu'il ne varie guère ses combinaisons. Jappe du gauche.
Jappe du gauche.
Jappe du gauche.
Cherche à faire baisser la garde.
Et boum ! Balance un direct du droit.
Trop téléphoné son direct.
Feignons de n'avoir rien compris.
Faisons comme si nous étions le benet de service.
Suffit d'attendre qu'il soit trop sûr de lui. Qu'il se découvre par excès de confiance et boum !
Crochet aux côtes.
Chacun son tour, mon salaud.
Mais la cloche retentit.
Minute de repos. L'entraîneur est calme.
Le rassure.
Le conforte.
Tu le tiens.
Il est cuit. Ne tombe pas dans son piège. Il cherche à t'endormir. Il a la garde trop haute.
C'est toi le champion.
Pas lui.
La cloche sonne.
On quitte le tabouret.
On se lève.
Encore dégoulinant de sueur et d'eau. Début du troisième round.
Le moment idéal.
Le docker a décidé d'en finir dès l'entame.
Sûr de lui, il croit tenir le chaos au bout d'un de ses gants.
Il s'élance de trop loin. Frappe de tout son poids, le bras bien droit dans l'alignement de ses épaules.
Mais la seconde d'après,
sur le ring,
s'agenouille,
le foie massacré par un crochet du gauche. Respiration coupée.
Genoux au sol.
Puis genoux au sol.
Les poumons qui s'affolent.
Les cris de la foule. L'arbitre qui ne l'entend plus.
7.
8.
9.
10.
Out. Et mon père, ce héros,
debout, les bras levés,
champion.
Dehors, la nuit, il neige. Mon père salue l'entraîneur, se dirige vers la porte, retrouve Pierrot qui l'attendait dehors. Ils partent ensemble, marchent côte à côte, bras dessus, bras dessous, plaisantent et rient comme deux gamins. Passe-moi une clope, père Abbé.
Il y a bien un match dans 15 jours.
Ouais.
Et si j'ai tout compris, tu n'es pas sûr de tirer.
Tirer ? Tu causes comme un boxeur maintenant, père Abbé ?
Tirer, boxer, c'est du pareil au même, non ?
Pour nous, les boxeurs, oui, c'est deux synonymes.
Alors ?
Alors quoi ?
Tu vas le faire, ce match, ou pas ?
Ça dépend.
De quoi ?
De toi.
C'est-à-dire ?
Tu es sûr de ton coup avec ton histoire de passion de je ne sais pas quoi ?
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tu me connais, je t'aime comme un frère. Mais les trucs cathos, tu le sais, ça n'a jamais été ma tasse de thé.
On sera au-dessus de ça, René. Ça sera tellement bien, vibrant, passionnant, poignant, intense, que tu auras l'impression, j'en suis persuadée, de mener chaque soir où tu joueras le combat de ta vie. Tu entends ça, René ? Le combat de ta vie, chaque soir, renouvelé.
Tu commences à parler aussi bien qu'un commentateur de boxe. Tu devrais aller leur demander s'ils embauchent à ceux qui causent dans le poste. T'aurais tes chances.
Écoute-moi plutôt. Ta ceinture de champion de France, même si je la respecte, ne sera plus rien par rapport à ce que le destin est prêt à poser sur ta tête.
Tu penses vraiment que ça va être comme ça ?
L'abbé l'arrête, le prend par les épaules, le regarde dans les yeux.
René, tu crois que je trahirais mon seul ami ?
Non, mais tu peux te tromper.
Pas si tu acceptes. Si on est tous les deux, rien ne pourra nous arriver. J'ai toujours su qu'ensemble, on ferait de belles et grandes choses.
Ça cause quand même de Jésus, ton histoire.
Ça parle d'éternité, d'intemporel. On n'est plus sur Terre, mais dans sa métaphore, on touche les étoiles.
J'atteindrai le sommet ?
Oui.
Le sommet des sommets ?
Je te le jure.
Je deviendrai comme Dieu.
Je ne te demande pas de blasphémer. Tu deviendras roi. Ce n'est déjà pas si mal.
Roi du monde ?
On va commencer plus bas. Tu graderas au jour le jour.
Je commencerai à quel niveau ? Dans quelle royauté ?
Dans l'état actuel de ta modestie et de ta perception de l'art, je ne peux rien t'offrir d'autre, mon vieil et grand ami, que la couronne de roi des cons.
Le samedi 4 septembre 1955, Mon père entame son premier jour d'apprenti comédien, catégorie théâtre d'eau bénite. Il est âgé d'un peu plus de 29 ans et s'apprête à fêter, dans tout juste un trimestre, l'anniversaire de mes 3 ans.
Il est parti de chez nous, en footing, trottinant tranquille, balançant dans le vide par réflexe quelques droites, quelques gauches, crochets et uppercuts, salué ou applaudi par des badauds qui l'ont reconnu et qui pensent naïvement qu'il prépare sans doute quelque chose d'important, genre championnat d'Europe, bien que ça fasse quelque temps qu'il a quitté le ring et la salle d'entraînement.
Il est vêtu d'un costume croisé à la Marcel Cerdan. Très classe, cravate claire. Ce ne l'empêche pas de courir. Il parvient à la salle de répétition du théâtre paroissial, pas même essoufflé.
Il grimpe sur la scène sans emprunter le minable escalier aux 3 marches bancales, fait un gracieux saut face au cabri, les autres s'extasient.
Oh !
Ça le fait marrer.
Mais à présent, sur cette scène, c'est une révélation. Il n'y connaît strictement rien au métier de comédien. Dans son rôle de Jésus, par exemple, il doit incarner le doute, l'incertitude, la réflexion, la foi, la soumission, la révolte, les tourments d'une vie intérieure, la chute, la mort. Et ça n'est pas en tordant ses lèvres comme un canard qui cancane ou en se prenant la tête dans le menton tout en gonflant son biceps qu'il va y parvenir.
René, s'il te plaît, on reprend.
On reprend quoi ? Depuis le début.
Tout ? Tout. Pourquoi ? J'ai pas bien joué ?
Quand les soldats romains viennent t'arrêter, on a l'impression que tu as entendu retentir le coup de gong et que tu te lances dans le combat, tête baissée, comme tu faisais sur le ring.
On avait dit qu'au début, il se défendait...
Intérieurement, René.
Mais comment tu veux que je me défende intérieurement ? Personne ne peut rien en voir de mes intérieurs.
C'est du ventre, justement, que Sourd essaye, notamment dans la tragédie antique, le cœur même du métier de comédien.
Là, Perabé, franchement, avec tes formules à la con, tu m'emmerdes. René, descends voir un peu et viens près de moi.
Il saute de la scène. Il saute de la scène, mon père se cabrit. Ils sortent, l'abbé et lui, dans la cour qui jouxte la salle, là où pour les fêtes d'été, on installe les balançoires. Ils allument une cigarette.
Je fais tout mal ou quoi ?
Non, René, mais mets-toi bien en tête que c'est la première fois que tu dois incarner un personnage et que...
Et au théâtre municipal, je n'incarnais pas peut-être ?
Tu ne faisais que passer une galipette, une clownerie et hop, à peine apparu, déjà disparu.
Et mes opérettes ?
Tu fais quoi ? Tu chantes un morceau par-ci, un morceau par-là, avec un tourne-disque en toile de fond, mais à aucun moment tu n'as interprété un rôle de bout en bout. Je suis intimement persuadée qu'à force de travail, tu vas parvenir sur scène à retrouver l'équivalent de ce que tu faisais sur le ring, à condition...
Mais c'est du théâtre, là, pas de la boxe.
Ne t'énerve pas, René, fais-moi confiance. Je ne te demande que ça, de me faire entièrement confiance. Nous sommes sur la bonne voie. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que tu t'inventes ou que tu te recrées dans ta tête, uniquement dans ta tête, des situations qui se traduiront dans ton corps et t'aideront ensuite à habiter ton rôle.
Par exemple,
quand ton fils est né, la joie que tu as ressentie, tu t'en souviens ?
Évidemment, je mourrai avec.
Il te faut la retrouver et l'incarner. Je vais te donner un exemple. Quand tu apprends que Jésus va mourir, qu'on va le crucifier, donc te crucifier par rôle interposé, c'est sûr que tu n'en as pas envie. Aussi bien toi, en tant qu'homme, que lui en tant que personnage. Ou l'inverse. Tu me suis ?
Pas vraiment, mais continue, on verra bien.
Ce que je veux te dire, c'est que personne dans le fond n'a envie de mourir. N'importe qui a envie de vivre.
Sauf les désespérés.
Je te parle en général. Personne, disons, bien dans sa vie n'a envie de mourir. On a tous envie de durer, même le plus longtemps possible. On n'y peut rien, c'est animal.
Et à part ces banalités, tu veux dire quoi ?
Juste ceci, étant Jésus, une petite voix lointaine et souveraine te rappelle que tu es fils de Dieu et que tu vas rejoindre ton Père et ainsi, en mourant, en étant crucifié, sauver l'humanité.
Alors, bien que tu sois dépité, on doit ressentir en toi, quand tu apprends que tu vas mourir, une joie identique à celle que tu as eue lorsque ton fils est né.
C'est un peu tordu, ton explication.
Je te parle en termes de théâtralité.
En résumé, soyons clairs. Je vais mourir sur la croix et je pense à la naissance de mon fils.
Exactement. Et je hurle, youpi, champagne, je suis papa.
Intérieurement. Uniquement intérieurement.
Le théâtre, c'est ça, hurler de l'intérieur ?
Parfaitement. Un transfert d'émotion.
C'est un métier.
C'est comme forger. Ça s'apprend. Suffit d'en avoir envie.
Si c'était aussi simple que ça, tout le monde serait comédien.
Je vais t'aider. Tu te souviens de toutes les sensations que tu as éprouvées sur un ring ?
Toutes.
Bien. Alors, on va recommencer à zéro. Et partir de ton expérience de boxeur. De ton expérience intérieure. On va désormais aborder ton rôle comme un combat dans lequel tu vas revivre toutes les joies, peines, peurs, doutes, angoisses, déceptions, cris de rage, de colère, d'euphorie, d'aigreur, d'accablement, d'injustice ou de mélancolie que tu as vécu sur un ring. Et tu vas t'en servir pour sublimer le combat que mène Jésus.
Quel combat ?
Celui silencieux entre sa douleur et sa foi.
Alors, je vais boxer, mais intérieurement.
Exactement.
Il s'agit donc bien d'un combat.
Voilà.
Si je résume, je vais combattre sur scène, comme j'ai combattu sur un ring.
Métaphoriquement, oui.
Ne m'embrouille pas. Je vais combattre, oui ou merde ?
Oui.
Contre qui ?
Tu vas déjà apprendre à te battre avec les mots du texte et la façon de les jouer. Mais tu te battras façon comédien et non façon boxeur. Ensuite, quand tu seras au point, que tu sauras bien ton rôle, que tu te sentiras investi, pleinement capable de l'interpréter, on ouvrira les portes en grand, le public entrera, tu monteras sur scène, on allumera les projecteurs, tu te mettras en garde et là, ne t'inquiète pas, je te le promets. Ce ne seront pas les adversaires qui vont te manquer. Là, tu l'auras ton match.
Alors allons-y, passe-moi une paire de gants. Je vais les boxer tes répliques et lui en foutre plein le ventre à ton théâtre grec.
Voilà, on va pouvoir commencer, après ces lectures, nous allons pouvoir commencer une petite rencontre avec Chloé Corman et Guy Bollet. Donc Chloé Corman, on vous connaît déjà à Manosque, parce que vous êtes venue en 2013 pour les saisons de Louve Plaine et en 2010 pour Les Hommes Couleurs. Les Hommes Couleurs qui avaient obtenu le prix Inter et le prix Valérie Larbeau. Midi est votre troisième roman. Et il figure sur la sélection, la première sélection du prix Renaudot.
Et vous, Guy, vous êtes déjà venu pour Fils du Feu aux correspondances en 2016, et qui avait obtenu d'ailleurs plusieurs prix littéraires. Et votre roman, Dieu boxé en amateur, lui est sur la liste, la première liste du Goncourt. Vous avez exercé de nombreux métiers, ouvrier, cracheur de feu, funambule, dramaturge pour des compagnies de danse et de théâtre.
Quant à vous, Chloé, vous êtes enseignante.
Oui. Bon.
Donc, il y a peu de points communs entre ces deux romans, vous l'avez bien vu, mais quand même... vous le constaterez en les lisant, les deux romans font un aller-retour entre le présent et le passé. Les deux romans commencent à l'heure d'aujourd'hui pour après rebasculer dans 15 ans auparavant ou beaucoup plus loin pour vous, Guy.
Oui, pour Chloé, c'est en fait l'arrivée de Dom à l'hôpital où notre héroïne Claire est médecin.
Oui, bonjour et merci beaucoup, parce que comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est la troisième fois et pour mon troisième livre qu'on m'invite à Manosque, et c'est beaucoup d'émotion d'être là. Et beaucoup d'émotion aussi d'avoir entendu la lecture, parce que ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a deux époques dans le roman, il y a deux époques qui ont tout pour s'opposer. L'époque du théâtre en amateur, qui est le point commun avec le livre de Guy. Une époque du théâtre en amateur, 15 ans auparavant à Marseille. Un été où des jeunes filles vont s'occuper d'enfants dans ce théâtre. Et un présent parisien, 15 ans plus tard, où chacun a chassé ses illusions. Et aussi est devenu peut-être l'enfant d'un drame qui a eu lieu par le passé. Et ça m'a beaucoup émue dans la lecture, parce que moi, dans la composition du roman, j'ai interpolé ces deux époques en permanence. Et là, manifestement, vous avez fait le choix d'un passage du temps qui était largement chronologique, en fait, qui partait de cette époque solaire de la jeunesse et du passé, et qui nous amenait petit à petit au présent adulte, désillusionné, avec une grisaille, avec une mélancolie. Et le fait d'entendre mon roman dans cet ordre, ça m'a beaucoup troublée, je voulais vous le dire. Ouais.
Vous qui volez, c'est la mort du père en fait, qui va être un déclencheur pour le narrateur. Son père, c'est un peu un naufrage. Et il va découvrir des carnets avec des chansons, et notamment l'opérette du dépôt. Et tout ceci va déclencher le souvenir de l'enfance de son père.
Oui et non, ça dépend si je réponds la vérité ou pas. Parce que si je vous dis la vérité, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. À l'origine, je voulais raconter l'histoire de mes parents qui montaient des opérettes dans la cuisine. Mes parents montaient des opérettes dans le quartier populaire qui est décrit dans ce livre, au quartier des Chaperets à Besançon, un quartier de cheminots. Il y avait le dépôt des locomotives à côté. C'est un quartier ouvrier. Mes parents étaient fous d'opérettes. Ils chantaient très bien tous les deux. Et mon père jouait un peu, comme il était boxeur et acrobate, il jouait dans les opérettes qui venaient de Paris. Vous voyez, chez nous, ça venait de Paris, l'opérette. Et de temps en temps, ils embauchaient un guignol. C'était mon père qui venait faire 2-3 galipettes comme ça sur la scène du théâtre. Et parallèlement à ça, ils montaient des opérettes dans la cuisine avec ma mère, donc avec les moyens du bord. Quoi. Mon père se faisait une fausse moustache, ma mère mettait un peignoir avec une fleur dans les cheveux pour faire princesse chrysanthème. Vous voyez, on n'avait pas beaucoup de moyens. Il y avait un rideau avec une tringle de manche à balai, enfin un bâton là, de manche à balai qui faisait les rideaux, qui ne tenait jamais. Donc on n'a même pas frappé les 3 coups, ça tombait avant. Et c'était assez drôle, c'était bon enfant, quoi, c'était l'opérette. Quoi. Et pendant 20 ans, j'ai écrit l'opérette, c'est-à-dire pendant 20 ans, j'ai fait peut-être une vingtaine de romans, un par an, dans lequel je voulais raconter cette histoire d'opérette. Et je n'arrivais pas parce que je collais trop à la réalité, je m'en suis rendu compte après, que je voulais absolument décrire cette opérette comme elle s'était passée, et puis que le roman n'a rien à faire avec la vérité. Ça, c'est une chose dont je suis intimement persuadé. Quoi. Le roman doit être métaphorique, si autrement c'est un récit, c'est un essai, je ne sais pas trop quoi, mais voilà quoi. Donc, au bout de 20 ans, j'en ai eu un peu marre de raconter cette opérette, vous voyez. Quand même, quoi. On a beau être têtu, quoi. On a beau être franc-comtois têtu, au bout d'un moment, c'est un peu long. Et dans l'opérette... Enfin, dans les deux romans, Fils du Feu, le premier, Quand Dieu boxe un amateur, on retrouve les mêmes éléments, à savoir le père forgeron, le petit frère qui est mort, et tout ça, des choses un peu communes aux deux romans. Et dans l'opérette, il n'y avait pas tout ça. Dans l'opérette, il n'y avait que l'opérette, c'est-à-dire que le moment de l'opérette, quand il chantait l'opérette pour les voisins, en buvant à l'issue du spectacle une cochonnerie genre Clairette de Die, enfin, j'espère qu'il n'y a pas... J'espère... Non, mais c'est bon, il y a des gens de Die là, ici, c'est pour ça.
On n'est pas très loin.
Ah, vous n'êtes pas loin, je ne sais pas si c'était. Oui. Non, c'est vachement bon, la clarette de Die. Non, mais moi, j'avais piqué une bouteille en cachette avec mes sœurs, puis on a eu mal à la tête, c'est pour ça. Non, c'est vachement bon, la clairette de Die. Enfin, voilà, le roman est né de l'impossibilité d'écrire cette opérette, quoi. En fin de compte, le premier, Fils du feu. Après, si vous voulez, je raconterai, si ça intéresse, la genèse de Dio Boxa, un amateur qui s'est passé d'une manière un peu rigolote. Voilà.
Alors, Guy nous parle d'opérette, et vous, dans votre livre, c'est du théâtre, mais du théâtre de Shakespeare. Pourtant, ce sont des enfants. Et Dominique, un des protagonistes de l'histoire, va décider de leur faire préparer cette pièce. Pourquoi cette pièce ?
Oui, c'est une pièce de Shakespeare, mais montée par des enfants. Hein. Donc, vraiment, ça me touche là qu'on ait réuni deux fois du théâtre en amateur. Parce que c'est ça, moi, qui m'intéressait dans cette histoire. Les jeunes filles qui sont venues là, à Marseille, pour travailler avec des enfants dans un théâtre, elles se rendent compte, à leur grande surprise en arrivant, que Dominique Müller, le patron du théâtre, qui n'est pas beaucoup plus âgé qu'elle, la pièce de théâtre qu'il a choisi de faire, c'est La Tempête de Shakespeare. Alors bon, déjà, Shakespeare, pour des enfants de 10 ans, c'est une idée quand même un peu saugrenue. Et puis, en plus, cette pièce-là, elle est réputée, elle est un peu mystérieuse, cette pièce. Parce qu'on dit que c'est la dernière pièce de Shakespeare. Et d'ailleurs, il se met en scène dedans, sous les traits d'un magicien, Prospero. Et Prospero, il n'a qu'une idée qui l'obsède, il le dit d'ailleurs à la fin. Une pensée sur trois qui me traverse l'esprit, c'est ma propre mort. Alors ce personnage-là, au centre de la pièce, pour en faire une pièce d'amateur pour les enfants, bon. Mais ça dénote le personnage de Dominique Müller, qui a réuni ses gosses-là pour un truc qui est un peu démesuré pour eux, qui va toucher à la mélancolie, à la fin de la vie. Et en même temps, comme souvent les vieux artistes, dans cette pièce, Shakespeare exprime une espèce de joie enfantine, d'enfance de l'art, d'aventure en mer, le goût de l'aventure, une histoire de jeune princesse qui tombe amoureuse, une histoire de matelots ivres qui se perdent dans la jungle et qui rêvent de devenir roi à la place du roi. Enfin, des choses vraiment très simples, quoi, qui parlent aux enfants. Donc, c'est ça que j'ai aimé dans cette pièce. Et ensuite, de la bricoler à travers le regard des enfants. Alors, ce n'est pas le ballet en travers de la cuisine, mais en fait, il va falloir quand même se demander, avec trois bouts de ficelle, comment on va monter la tempête dans ce théâtre, comment des petites filles de 10 ans vont incarner la belle Miranda, comment des petits garçons vont incarner des marins ivrognes sur le rivage. Avec quel décor, quel moyen. Et moi, j'aimais bien. Ça, c'est ça, là aussi, que ça rejoint peut-être aussi la tonalité chrétienne. C'est comment ces petits enfants vont être dans les rôles. C'est vraiment le mystère de l'incarnation. Et on va vraiment se demander comment faire exister ces enfants. Et moi, ce qui m'intéresse dans le théâtre, dans ce truc-là du théâtre amateur, c'est que en tant que don, que cadeau fait à ses enfants, c'est un peu limite. À la fois, ça les grandit, ça les magnifie, ce truc-là d'être sur la scène, de se tenir avec des costumes. Et en même temps, c'est un peu accablant, quoi. C'est un peu, je vous portais des masques comme en société, mais presque des costumes trop lourds et qui les font trébucher. Et c'était ça vraiment que j'essayais de capter pour la représentation de ses enfants.
Je vais lire. Je vais répondre à Chloé. Donc l'abbé dans le bouquin, il est passionné de théâtre grec, tout ça. Et voilà ce qui se passe. Et si le théâtre grec antique lui remua les tripes, il doit admettre qu'il fut surtout bouleversé par les pièces de Shakespeare, qui, malgré la violence et l'injustice qu'elles contiennent, malgré l'immoralisme ou l'immoralité dont certaines sont outrées, malgré leurs ouragans de bruit et de fureur et leur couronne royale qu'on arrache des têtes en même temps que le cuir chevelu et la boîte crânienne qui les orne, demeurent les seuls, grâce au génie du dramaturge anglais, à avoir su analyser et disséquer cet immense troupeau d'âmes que Dieu a mis au monde. À croire que William, le génie de Stratford, n'a fait que demeurer, une plume à la main, assis durant des ans près d'un confessionnal, à prêter l'oreille aux péchés des mortels, aux passions des humains, aux aveux des pécheurs, puis qu'il s'est contenté, tout naturellement, de retranscrire en vers, en scène, en acte ou en tableau, ce qu'il y entendait.
Merci.
On reste dans Shakespeare, voyez.
Et vous parliez de rôle qui accablait, et c'est vrai que la petite Joséphine, où on se doute qu'il y a quelque chose, c'est pas normal. Ses yeux au beurre noir, c'est pas normal, cette petite fille qui se bat. On va lui faire justement tenir un rôle terrible, celui de Caliban, qui est un peu monstrueux. Enfin...
Oui, alors je parlais du fait que ses souvenirs de 15 ans plus tôt étaient lumineux, solaires. Ils étaient imprégnés par l'énergie de la jeunesse, par la force remuante des enfants, mais ils sont aussi marqués par un drame. Et ce drame, c'est que dans le groupe d'enfants, rapidement, les animateurs se rendent compte qu'il y a une petite fille. Bon, on ne sait pas ce qu'elle a, mais ça tourne pas rond, quoi. C'est, est-ce qu'elle a du mal à se faire des amis? Est-ce que... pourquoi elle est violente? Pourquoi... et puis petit à petit se fixe l'image d'une enfant qu'on maltraite. Alors les encadrants font une faute. Alors est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est... Dans La Tempête de Shakespeare, il y a un personnage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Caliban. Caliban, il est né dans l'île. Il est le fils d'une sorcière. Il est, comme on disait à cette époque, un sauvage, au sens où pendant des années, il a vécu sans apprendre à parler. Il dit plus tard d'ailleurs que quand on lui a appris à parler, le langage ne lui sert à rien d'autre qu'à maudire, c'est-à-dire à exprimer sa hargne et sa violence. Il n'en fait rien de beau à son sens. Et c'est ce rôle-là du marginal qu'on affecte à la petite Jo, à la petite enfant maltraitée. Vous savez, si on n'a pas affaire à du théâtre amateur, si on a affaire à du théâtre, un acteur mûr sait que les rôles de monstres, les mauvais rôles, c'est intéressant, ça va le grandir. Mais des enfants, ils se battent pour les petites filles, elles se battent pour faire la princesse, elles se battent pas pour faire Caliban. Donc Caliban, ça reste à l'écart. Et tout d'un coup, on dit à Jo, ah ben, on va te donner le costume de Caliban, ce qui évidemment ne fait que accélérer sa marginalité dans le groupe. Bon, et alors tout ça, c'est ce dont les personnages se souviennent 15 ans plus tard. Il y a une autre chose qui m'est revenue aussi à propos de La Tempête, pourquoi cette pièce. Il se passe quelque chose d'étrange à la fin de La Tempête. Donc il y a ce magicien Prospero qui fait tout pour se venger de ses ennemis, en les attirant dans l'île et en inventant des tas de tours de magie, de tours de passe-passe pour les humilier, pour les tourmenter et pour reprendre sa place de roi à Naples. Et en fait, une fois qu'il les a bien tourmentés, il est temps de rentrer tous ensemble en bateau. Et à ce moment-là, Prospero casse sa baguette magique et renonce à tous ses pouvoirs magiques. Donc en fait, il se soumet entièrement à ses ennemis. Et il dit, bon, finalement, j'ai pas envie de les dominer par la magie. Ce que je voudrais, c'est qu'on se pardonne. Et il s'en remet entièrement à ça. Et on ne sait pas si les gens vont se pardonner. Et je pense que c'est ça aussi que je voulais raconter à travers l'histoire de la maltraitance de Joséphine, qui est doublée par ce rôle de Caliban qu'on lui a affecté, etc. C'est que 15 ans plus tard, les témoins, les acteurs de ce drame se demandent s'ils vont pouvoir s'échanger des pardons. Et évidemment, c'est pas donné, quoi. Ça se donne pas si facilement.
Surtout que c'est une histoire qui les hantera toute leur vie, quoi. Et voire même pour Dominique, le héros, ça va être une déchéance.
Le drame est aussi au cœur de votre roman, puisque il va y avoir un basculement à la mort du petit frère.
Oui. je pensais que la question allait durer plus longtemps. Je m'apprêtais à répondre à une question, alors que là, c'est une affirmation. Vous voyez ?
C'est une affirmation.
Oui, oui. Dans le premier roman, Fils du feu, la mort du petit frère scindait déjà le roman en deux parties. Il y avait, avant la mort du petit frère, il y avait l'histoire de ce narrateur qui vivait au milieu de la forge, comme dans un univers mythologique, parce que je me réfère beaucoup à la mythologie, tant grecque que chrétienne. Pour moi, ça ne fait aucune différence. En dehors des problèmes de foi qui ne me regardent pas, quoi. Mais je trouve c'est pareil, la mer rouge qui s'ouvre en deux, ou Zeus, pour moi c'est un peu pareil, quoi. Enfin, quand on est enfant, c'est tout aussi magique. Donc là, dans Fils du feu, je racontais l'histoire d'un enfant qui grandissait dans ce monde merveilleux, au milieu des forgerons, des femmes qui faisaient les lessives, c'était très bien, jusqu'à ce que le petit frère meure. Et que tout d'un coup le monde s'écroule, parce que la mort surtout d'un enfant fait que le monde s'écroule. Et ici aussi j'ai repris un petit peu cette thématique, et dans le troisième aussi, pour ceux qui veulent déjà faire des économies pour l'acheter, vous saurez que dans le troisième, voilà, on va retrouver un peu les mêmes personnages, la même toile de fond, avec le personnage de la mère qui va être le personnage principal. Donc ça va former une trilogie, on l'aura compris. Et après, j'en aurais fini avec tout ça, voilà, enfin, la famille, enfin, avec.
Avec l'opérette.
Oui. Enfin, oui, oui, oui. Enfin, avec celle-là, du moins, avec celle-là. J'aime bien l'opérette. Je rêve d'écrire une vraie opérette comme celle d'avant, quoi, avec Mariano et tout ça. Enfin, l'équivalent de Mariano, quoi, voilà, qui est mon idole avec Mohamed Ali, vous voyez. Moi, je suis quand même pas. Je sais qu'il est de bon ton de citer Proust et tout, mais moi, c'est Mariano et Mohamed Ali. Voilà. Donc oui, non, c'était triste, la mort du petit frère, parce que là, je pars à dire des bêtises. Mais oui, effectivement, là, le monde va aussi s'écrouler pour le père. Il va se mettre à boire suite au décès de son fils, de son enfant. Mai 68 va arriver par là-dessus, et ça va provoquer chez le narrateur qui est censé être moi, mais c'est un roman, hein, je rappelle. Hein. Aragon disait qu'il ne fallait pas chercher dans l'auteur les personnages qu'il écrivait. Et l'enfant, le narrateur, va donc vivre mai 68, qui, comme on le sait, a balayé toutes les autorités. L'autorité de la France d'avant, notamment celle l'autorité paternelle qui était en tête de gondole. Donc voilà, le livre va parler de tous ces effondrements, l'effondrement dû à la mort, l'effondrement dû à la rupture entre le conflit générationnel, entre le père qui, toute la génération d'avant, de mes parents, était issu plus ou moins de la France de Pétain, même s'ils partageaient pas leurs idées, mais c'était quand même travail, famille, patrie qui géraient un petit peu leur univers mental, quoi. Et tout d'un coup, il y a eu un vent de liberté qui vaut ce qu'il vaut. Là, on reviendra là-dessus plus tard. Mais... Et donc, oui, ça parle de tout ça. Voilà.
Et là, dans votre roman, Chloé, c'est le Dom, donc le directeur du théâtre, qui va expier toute sa vie, finalement, qui va se retrouver avec très, très malade à l'hôpital. C'est une façon d'expier.
Bah, on ne sait pas si c'est volontaire, hein. Mais il est clair que c'est un homme qui a refusé de se soigner et en plus qui est tombé malade d'une maladie, une hépatite C, qu'on attrape quand on a ce qu'on appelle pudiquement les comportements à risque. Donc manifestement, c'est quelqu'un d'à la fois très jeune qui est en train de mourir, de se laisser aller de maladie. C'est pour tous les personnages l'occasion de réfléchir à ce qui les a réunis 15 ans plus tôt. Ils sont comme convoqués par la maladie de Dom. Moi, j'aimais bien cette idée de Claire, elle est médecin dans cet hôpital parisien. Son ancien amant malade arrive. Et je ne sais pas si vous connaissez des médecins, mais c'est des gens, on pense qu'ils savent, on pense qu'ils peuvent porter secours, on pense qu'ils ont un certain pouvoir. Et elle, devant Dom, elle perd complètement ses moyens. C'est comme si tout d'un coup, elle aussi, elle était une patiente. Elle était quelqu'un qui a besoin d'être guérie. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle se met à parler, qu'elle se met à raconter leur histoire. Et Dom expie, en même temps, il refuse de parler, il refuse d'avouer ses torts. Donc c'est une expiation quand même assez hypocrite. C'est une réunion de trois personnages qui ont été témoins du même drame. Et ce drame les a forgés. Et 15 ans plus tard, ils ont besoin d'éclaircir ce qu'ils ont vu ensemble.
Leur amitié est mise à mal parce que elles étaient très amies, les deux jeunes filles. Elles restent amies, mais il s'est passé à l'âge de 20 ans. En fait, elles ont toutes les deux été les amantes de Dom.
Oui, c'est l'histoire d'un triangle amoureux. Elle débarque à Marseille. Elles sont sous le charme de ce directeur de théâtre. Et lui, il ne se prive pas de profiter de l'une et de l'autre. Et elles ont du mal. Elles sont tellement fascinées aussi par ce personnage. Ça caractérise aussi le triangle amoureux. Elles sont tellement fascinées par le personnage qu'elles acceptent. Elles se disent que l'autre a bien raison d'y aller, quoi. Et aussi parce que, comme c'est souvent le cas à cet âge-là d'une amitié, il y a peut-être aussi une attirance entre les deux jeunes filles. Enfin, voilà. Mais ce qui compte dans cette histoire d'attirance à l'âge de 20 ans, c'est la joie des corps, le bonheur sensuel de cette époque qui va jouer un rôle aussi dans le drame parce que ça les rend un peu distraites. Hein ? Il y a un drame sous leurs yeux, mais elles ont autre chose à penser, elles ont surtout autre chose à faire. Et donc, mais moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire, c'est est-ce que ça les condamne parce qu'elles ont été attirées par leur propre plaisir et elles n'ont pas su intervenir pour aider, pour porter secours à la petite Jo. Ou bien est-ce qu'elles n'auraient rien pu faire et elles ont aussi cherché la vie, cherché quelque chose, une énergie à laquelle elles doivent la vie 15 ans plus tard, parce qu'on vit aussi de ces souvenirs-là, de cette énergie-là. Et je voulais toujours osciller entre ces deux hypothèses dans l'écriture du livre. Est-ce qu'elles fuient ou est-ce qu'elles font la seule chose possible pour survivre ?
Le charisme de Dom, c'est vrai que là, la jeune fille, le jeune médecin redevient ce qu'elle était à l'âge de 20 ans. Et dans votre livre, Guy, le père a énormément de charisme. Il y a des passages d'ailleurs très très drôles où quand il va faire le... On n'a pas lu ce passage-là, mais quand on va savoir qu'il va faire le rôle de Jésus, toutes les femmes du village, toutes les femmes du coin vont se précipiter pour faire le rôle de pleureuse...
Parce que c'est quand même... Et il a la beauté d'un James
il
Dean.
Il est très beau, on le compare à James Dean. Il s'habille comme Marcel Cerdan. Il saute comme un cabri, tout le monde l'applaudit.
Et la grande question, c'est est-ce que le périsonium va tenir ? Le périsonium, c'était le linge qui cachait les parties intimes du Christ. Et donc, c'est la grande affaire de toutes ces dames.
Oui, j'ai découvert le mot périsonium. Je l'ai mis parce que j'aimais bien la sonorité du... Mais je ne savais pas que le linge du Christ sur la croix, enfin le linge qu'il porte, avait un nom, il s'appelle le périsonium. Quoi. Et effectivement, comme c'est quelqu'un de très beau, musculeux, on le compare à James Dean et je ne sais plus qui réunit, toutes les femmes, d'habitude dans la troupe paroissiale du théâtre amateur, il y a une vingtaine de personnes, là elles sont 140, on peut dire elles parce qu'elles viennent que pour lui. Quoi. Et c'est rigolo, oui. Enfin, moi, je ne sais pas bien parler de, vous l'avez constaté, quoi, de mon roman comme il faut. Je ne sais pas tellement parler des histoires, des personnages. Je sais dire du mal de la Clairette de Die, dont j'ignorais que c'était une ville toute proche. Non, mais j'ai toujours du mal à quand vous dites quelque chose, j'ai envie de dire oui, c'est vrai. Vous voyez. Maintenant, dire qu'il est beau, vous venez de le dire. Dire qu'il est musculeux, vous l'avez dit aussi. Que vous dire d'autre ? Moi, ce qui m'amusait, c'était le fait que cet homme qui montait ses opérettes dans la cuisine, de par sa beauté, de par sa musculature, devient tout d'un coup Jésus et d'en faire un dieu. Enfin, c'est de faire de mon père un dieu, c'est ça qui m'a plu, quoi. Voilà.
Est-ce que je peux vous dire que j'ai apprécié les trouvailles littéraires de votre roman, oui. Et les métaphores linguistiques, métaphoriques, les fausses couches. Les fausses couches sont des annonciations qui rentraient le train d'atterrissage.
Mais ça, peux parler plus facilement de la forme que du fond, en fin de compte, parce que mon maître, mon écrivain préféré, Pierre Michon, mon maître et ami, je suis ami avec Pierre Michon depuis 20 ans, et c'est mon maître absolu en écriture, dans ses entretiens sur la littérature, le livre qui s'intitule « Le roi vient quand il veut », à un moment, il dit « Je me méfie du roman dans lequel se perd l'énergie de la prose ». Moi, je suis incapable de faire un roman avec des personnages et tout ça, j'arrive pas. D'ailleurs, dans les trois romans que je vais faire, c'est les trois mêmes personnages qui sont un peu issus quand même de mon univers familial, quand même. Même si c'est un roman, que j'en ai fait des personnages, mais je suis incapable de créer des personnages, d'inventer une histoire. Ce qui m'intéresse, c'est le chant de la phrase, c'est la musicalité, c'est la beauté des mots. Il y a que ça qui m'intéresse, en fin de compte, dans l'écriture. Alors, c'est un peu ballot de dire pour un romancier qu'il n'aime pas le roman, mais je ne me sens pas, pas tellement attiré par la chose romanesque, vous voyez. Mais après, forcément, si on est chez Grasset, on fait des romans, on fait pas... Donc voilà, pour faire plaisir à mon éditrice, je fais des romans. Mais je préfère qu'on parle de la poésie des mots, enfin du chant de la phrase, c'est ça qui m'intéresse. C'est en ça que j'aime Pierre Michon. Et moi, je suis venu à l'écriture parce que je suis complètement autodidacte. Hein. Voilà, c'est un peu comme marqué dans le bouquin. Moi, je suis parti de chez mes parents, je devais avoir 16-17 ans avec ma guitare. C'est pour ça que j'ai fait tous les métiers. J'ai fait cracheur de feu, j'ai fait acrobate, funambule à grande hauteur, vous voyez, traversée de clochers et tout ça. J'ai fait ce que je pouvais, quoi. Et un tas de métiers, cascadeur, garde du corps pour un homme politique. C'est bien de bosser pour les... Non, pour les hommes politiques, c'est bien de bosser. On gagne 10 fois plus que garde du corps, que vigile à Monoprix, vous voyez. Donc, ça, c'était bien. Oui, j'étais funambule, ouais, oui. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, j'ai découvert la littérature à travers les grands lyriques, on va dire. C'est-à-dire Peggy, enfin moi Peggy, c'est mon idole. Peggy, Chateaubriand, Saint-Simon, des gens qu'on lit plus beaucoup, enfin plus tellement. Racine, qui est un de mes grands maîtres. Je peux lire une pièce de Racine 100 fois de suite. Shakespeare, bien sûr, évidemment, quoi, hein, tout ça. Donc c'est ça qui m'a un petit peu appris à écrire, davantage qu'un cursus universitaire. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, quoi. Maintenant...
Ce qu'on a beaucoup aimé aussi dans votre roman, Chloé, c'est le côté visuel. Je ne sais pas si vous avez entendu, enfin vous avez entendu la première lecture de Sylvie. Elles arrivent dans le bureau de celle qui doit les diriger vers Dominique Muller. Et on est en même temps avec le chant qui est à l'extérieur, dans le sac, dans le contenu du sac de cette femme. Et puis on sent toutes les odeurs de Marseille, on est en même temps à Marseille, on visualise, enfin on a beaucoup aimé toutes ces sensations, en fait, où tout d'un coup il y a des zooms, c'est olfactif, c'est visuel, on zoome sur un objet, on reprend un champ, voilà, ça reprend du recul et on voit la scène d'ensemble, enfin c'est...
Merci. Mais... Vous savez, moi, j'ai traversé ce livre avec une sorte d'urgence dans l'écriture. Je savais que je racontais un drame. Et c'est vraiment le drame, je dirais, primaire, élémentaire, que celui de la violence cachée, familiale, qui affecte une enfant. Et c'était dur de vivre avec cette histoire-là pendant tout le temps où j'ai écrit le roman, et à la fois pour les personnages, à la fois dans un souci aussi de véracité, à la fois pour moi. il y avait une espèce d'impératif qui était « Mais qu'est-ce qui va raconter la vie ?» Qu'est-ce qui fait, et je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que les personnages aussi passent à côté de cette violence parce que c'est répugnant. Même d'ailleurs, la petite victime, elle est repoussante. On n'a pas envie de s'occuper d'elle parce que c'est souvent le cas des victimes. La violence qu'elle reçoit, elle l'a réfléchie. Donc, il y a des joies qui vont les détourner de l'action, mais aussi qui vont être nécessaires. Et pour moi aussi, elles étaient nécessaires pour traverser l'écriture de ce roman, de me demander à chaque instant qu'est-ce qui se passe de vital, qu'est-ce qui se passe de joyeux, de matérialisable à chaque instant. Et ça aussi, c'est les enfants qui m'ont pris par la main aussi pour raconter ça, parce qu'eux aussi, à chaque instant, ils ont des costumes qu'il faut rajuster, ils ont des problèmes de goûter, ils sont là aussi dans une immédiateté et dans un effectivement dans une existence matérielle qui permet de survivre à ce qui se passe à côté d'eux.
Et ce qui est très beau dans votre roman, c'est que justement ce drame est toujours en filigrane. Il est suggéré. On le perçoit, mais il n'est jamais décrit. Tout au long du livre, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais c'est jamais très clairement dit.
Mais ça, c'est le fait de. Alors, c'était par pudeur, par volonté de pas surexposer cette petite fille. Aussi parce que, ça je voulais le porter dans le titre du roman, aussi parce que je pense que c'est une définition de la violence, que de se rendre invisible. Que d'apparaître comme ça, en plein soleil, on sait qu'on est devant quelque chose de terrible. Et en même temps, les faits vous éblouissent et on est comme empêché de les voir. C'est la première fois que je fais un roman dont l'intrigue est aussi resserrée sur un tout petit groupe de personnages. D'habitude, je raconte des violences qui sont plus politiques, qui visent une collectivité plus large. Dans mes romans précédents, j'ai parlé des émeutes en banlieue, j'ai parlé de l'exode des Mexicains vers les États-Unis dans les années 60, j'ai parlé de violences qui touchent une collectivité plus large. Là, c'était une petite collectivité. Mais je voulais de nouveau explorer cette question-là de la violence et de notre responsabilité face à la violence. Et il me semble que dans un drame intime comme celui que vit Jo, mais comme dans des drames plus étendus, comme celui des migrants aujourd'hui, la crise humanitaire des migrants, on est comme tétanisé, comme si on a les choses sous les yeux. Et en même temps, pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on a du mal à intervenir? Parfois, dans les cas des drames, des drames sur les enfants, on a peur d'aggraver la situation. Mais il y a une intrication, en tout cas, de cause. Et vraiment, je pense que l'invisibilité de la violence, elle fait partie de la violence. Ça fait partie de la violence que de dire « Non, non, mais circulez, il n'y a rien à voir. » Comme une espèce d'insulte faite à l'intelligence aussi des témoins qui souvent redouble l'effet de violence.
Merci. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance souhaite poser des questions à l'un de nos deux auteurs? Alors, je pense qu'il y aura un micro qui va circuler.
Moi ? Ah.
Oui, parce que oui, ça va.
Je n'ai pas vu où se portait votre regard. La jeunesse de quel roman? Le dernier, le deuxième. Vous voulez la vérité ou un truc arrangé? Donc, la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je vous la livre en son entier. On sent que j'ai lu Peggy. Hein. Alors... Moi, j'habite un village dans le Jura où il y a plus de vaches que d'habitants, vous voyez. C'est-à-dire, moi, je suis peinard au milieu de la forêt et tout ça. J'envoie des manuscrits à des éditeurs depuis 1986 qui me sont refusés régulièrement. Vous voyez, notamment l'opérette, tout ça, personne n'en voulait. Pas grave. Et j'avais envoyé un manuscrit qui était un mélange de quatre vies. Il y avait la vie de Charlie Mingus, le contrebassiste de jazz, de Mohamed Ali, le boxeur, de Kathleen Ferrier, la contralto anglaise, et de mon père. Donc ça faisait un mélange de quatre vies qui, pour moi, formait un roman. C'est-à-dire que je prenais les quatre morceaux. Chaque fois, il y avait un morceau de vie, ça s'était coupé en quatre. Il y avait Ali, machin, tout ça. Puis ça recommençait quatre fois, quatre, 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 chacun parlait. Enfin, il y avait un... Voilà. J'ai envoyé ça à des éditeurs. La plupart m'ont répondu que ça n'avait pas de sens, que c'était des puzzles. Alors que pour moi, ça avait un sens. Justement, c'était le puzzle qui donnait sens à ce roman. Mais bon, ils n'en voulaient pas. Par contre, le manuscrit a été repéré chez Grasset et Gallimard aussi, qui avaient été un peu attirés par mon style d'écriture. Voilà, en me disant, est-ce que vous n'avez pas autre chose ? Non, mais c'est vraiment passé comme ça. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas autre chose ? Là, j'ai envoyé Fils du Feu, qui s'appelait autrement, ça s'appelait Ekphrasis à l'époque. Donc, j'ai envoyé Fils du Feu, où j'ai eu des réponses positives de chez Grasset et Gallimard. Et je suis allé chez Grasset, qui a publié Fils du Feu en premier. Et après, comme un malin, moi, j'ai essayé de refourguer mon roman avec les quatre vies. Et ça n'a toujours pas marché. Mais mon éditrice, qui est une maligne, n'a pas voulu d'emblée me casser en disant « j'en veux pas ». Elle m'a dit « on va voir Guy », tout ça. Ça a duré un petit moment. Et petit à petit, au fil des mois, ben, elle m'a viré Mingus, elle m'a viré Mohamed Ali, elle a viré Ferrier. Elle m'a dit « Guy, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est le personnage de votre père. » Elle dit « il faut bosser là-dedans ». Alors moi, j'étais désespéré. J'ai sombré dans la clairette de Die pendant un mois. Non, mais j'étais vraiment pas content. Vous voyez, j'étais en colère parce que moi, j'y tenais à ce roman. Et je ne vais pas parler pendant un mois. Je décrochais pas le téléphone parce que je suis un peu tête de larme. Vous voyez, alors, je ne vais pas parler pendant un mois. Puis après, je réfléchissais en me disant peut-être qu'elle n'a pas tort. Et elle me disait sans arrêt... Faites-moi confiance, Guy, faites-moi confiance. Et j'ai remis ça exprès pour elle, c'est une espèce de clin d'œil, de private joke. À un moment, l'abbé, il dit à René, quand il fait du théâtre, fais-moi confiance. Et j'ai mis ça pour elle, un petit clin d'œil. Et puis donc, voilà, j'ai repris, je me suis dit, bon, elle connaît son métier, parce que j'ai énormément confiance en mon éditrice. Beaucoup de gens disent ou pensent du mal des éditeurs, c'est leur problème. Moi, je travaille avec elle, bon, ça fait pas longtemps, on n'en est qu'à deux livres, mais j'ai vu qu'elle connaissait son métier, et qu'elle m'aimait bien, et que je l'aimais bien. Et donc, il y a un rapport de confiance, je me suis dit, bon, allez, faisons une tentative, puis en fin de compte, le livre est sorti assez vite, parce que j'ai aussi repêché des trucs dans mes opérettes, vous voyez, des trucs que j'avais déjà écrits, que j'ai pu replacer en douce, voilà. Et voilà. Mais ce livre n'est pas né de ma volonté de moi d'écrire un bouquin sur mon père, sur mon père qui faisait du théâtre. Il est né du personnage du père qu'elle avait repêché dans le bouquin et de mon envie quand même de replacer un peu cette histoire de théâtre et d'opérette qui me tenait depuis 20 ans. Quoi. Voilà, ça vit tout.
Non. Chloé descend. Moi, je voudrais poser un peu le même genre de question à Chloé. Est-ce que votre expérience d'enseignante a nourri un peu votre personnage de maltraitance de la petite Jo ?
Oui. Alors, au préalable, je voudrais vous dire que ce roman est un peu différent de mes romans précédents. Parce que dans mes romans précédents, j'ai toujours fait des enquêtes. J'ai fait du terrain, par exemple, pour les saisons de Louvre-Plaine, justement, j'ai fait une expérience pédagogique d'atelier d'écriture avec des adolescents en Seine-Saint-Denis. Et je m'en suis directement nourrie, pas pour l'atelier, mais pour le langage des adolescents que je représentais dans le roman. Et là, tout s'est fait de façon plus spontanée. Je voulais faire un roman un peu sans enquête, en plongeant moi dans des expériences, des choses qui remontaient de façon plus spontanée. Et évidemment, j'aime observer les enfants. Je pense qu'ils donnent une espèce de... C'est ça que j'essayais de décrire avec la tempête qui était mise en scène par des gamins de 10 ans, le fait que c'était mégalomane de la part de Dominique, mais aussi c'était intentionnel de ma part parce que ça... Ils abolissent une sorte d'esprit de sérieux, ils donnent une légèreté, ils donnent une trivialité aussi. Et moi, j'aime ça avec les enfants. Et donc oui, ça a nourri le roman fondamentalement. Et ça rejoint aussi cette envie que j'avais de raconter un drame, mais avec la grâce, avec la légèreté, la désinvolture d'un groupe d'enfants.
En plus, dans la beauté de Marseille, on trouve que l'ambiance de la ville est extrêmement bien rendue, que ce soit quand les enfants vont dans les calanques ou alors le quartier du Panier. Il y a des choses absolument magnifiques.
Ça me fait plaisir. C'était un bon prétexte, ce roman, pour partir à Marseille régulièrement. Et c'est vrai que c'était la ville pour raconter cette histoire. Je pensais en l'écrivant que c'était la ville de Monte Cristo, que c'était la ville. Je voulais imprégner mon roman de quelque chose de la littérature jeunesse, de la littérature d'aventure. Mais je dis ça dans un sens noble, hein, vraiment de confrontation de petits corps grandissants avec la grandeur de la fiction, ou en tout cas l'ailleurs de la fiction. Et je voulais impulser ça. Et la tempête de Shakespeare raconte ça aussi. C'est vraiment dans sa simplicité. On dirait un grand artiste qui arrive sur une plage et qui dit si on faisait un spectacle. Il y a une espèce de caractère élémentaire et grand, à la fois primitif et grandiose dans cette pièce que je voulais donner. Mettre en scène avec ses enfants.
Alors moi, j'ai lu et relu votre livre puisqu'on a travaillé pour la lecture, et ce qui m'est venu au fur et à mesure des lectures, c'est ce poids du remords et de la culpabilité qu'on peut avoir face à une situation comme ça, et aussi le peu que Manu a reçu parce qu'elle est allée, Manu, s'entretenir pour éventuellement pouvoir dénoncer, entre guillemets, les mauvais traitements. Mais elle l'a fait aussi avec beaucoup de réserve, parce qu'on est très mal face à des situations comme ça. Et on a eu en face pas de réponse. Il y a ça aussi qui est très important dans ce livre. Il n'y avait pas de réponse. Et ensuite, le personnage de Dom, plus on le lit, plus il est affreux.
Il y a un phénomène qui se passe quand vous faites paraître un livre. Il vous met à un certain endroit d'un dialogue avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous le publiez et tout d'un coup, des gens viennent vous voir avec des histoires. C'est comme si le roman se continuait dans des chemins qu'on n'avait pas forcément prévus. Il se passe quelque chose particulièrement avec celui-là, qui est que tout d'un coup, on vient me voir avec des histoires de maltraitance d'enfants. Et ça revient. Le remords, souvent, la difficulté à intervenir, parce que on le voit avec Manu, imaginez qu'on intervient et l'enfant n'est pas retiré à sa famille, il risque d'être encore plus accablé. Et en même temps, il ne faut pas non plus absoudre ces trois personnages. Ils sont trois justement parce que ça permet de montrer trois attitudes, plus ou moins compromises. Vous parlez de Dominique, lui qui est carrément à la limite de la corruption, c'est-à-dire qu'il a un intérêt à se taire. Et deux jeunes filles qui sont intimidées. Et c'est ça aussi qui les fragilise. Cette culpabilité, elle est flottante, elle est... On ne sait pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la violence. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours sûr de où sont les responsabilités.
Je...
je pense qu'il va falloir qu'on interrompe, qu'on s'arrête, parce que je vois que beaucoup de gens attendent peut-être pour les dédicaces. Nous vous remercions. Nous remercions. Nous remercions Chloé Corman et Guy Bollet. Je vous invite à les rejoindre à la table du libraire et je vous invite également à partager avec nous un apéritif offert par la médiathèque et composé par Comme à la maison.